Les deux aspects, tu as compris quels sont les deux aspects?
Oui. La mère universelle.
Le maître de l'existence et la mère universelle. N'est-ce pas? L'Ishwara et la Shakti. Le maître de l'existence et la mère universelle. Alors. N'est-ce pas, s'il voit les deux aspects, c'est-à-dire le maître de l'existence et la mère universelle, il peut les voir avec une inégalité dans la vision. C'est-à-dire qu'encore il les sépare et qu'il donne plus d'importance à l'un qu'à l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et alors, dans ce cas-là, il y a une tendance unilatérale, ça veut dire qu'il ne voit qu'un côté, n'est-ce pas? Ou un manque d'équilibre entre les deux perceptions. Et alors, un pouvoir de réalisation qui n'est pas parfaitement soutenu, c'est-à-dire l'action de la mère sans le soutien de ce qu'il appelle le maître, n'est-ce pas? L'action de la mère qui n'a pas une base suffisante du soutien du maître. Ou bien la lumière d'une révélation, c'est-à-dire la conscience du maître, n'est-ce pas, la lumière d'une révélation qui ne se réalise pas, qui n'est pas parfaitement dynamique, ça veut dire qu'il ne se traduit pas dans une création. Ou c'est le pouvoir créateur qui n'est pas supporté par la révélation, ou c'est la révélation qui n'est pas exprimée dans le pouvoir créateur. C'est ça qui veut dire. On a ou l'un, une tendance vers l'un ou vers l'autre, au lieu d'avoir les deux en même temps, si on ne les sépare plus dans sa conscience. Il dit que c'est quand on arrive à ne pas les séparer dans la conscience, qu'alors on peut comprendre complètement ce qu'est le Seigneur du sacrifice. Autrement, on penche d'un côté ou on penche de l'autre. Et là, naturellement, ce que l'on fait est incomplet. Si, il dit très bien, n'est-ce pas, que si on penche du côté du maître sans avoir l'insistance sur la Shakti ou la mère, alors on s'en va dans l'impersonnel, n'est-ce pas? Et hors de la création, on retourne au nirvana. Tandis que si on penche de l'autre côté, il dit que même cette tendance vers l'impersonnel peut exister même dans le yoga des œuvres, n'est-ce pas, le karma yoga. Et que on considère toujours la force impersonnelle, l'aspect impersonnel, comme l'aspect libérateur, qui vous libère de l'étroitesse de la personne. Et il dit c'est pour ça qu'il n'y a rien d'étonnant à la puissance écrasante de cette expérience. C'est-à-dire quand on fait l'expérience de l'impersonnel, c'est jusqu'à présent ce qui a toujours été considéré comme le yoga. c'est d'abandonner la personne et d'entrer dans la conscience de l'impersonnel. Il parle de ça comme d'une expérience écrasante parce que elle vous donne l'impression de la libération de toutes les limitations de l'ego. Et alors, là, il décrit après l'union, l'insistance sur le côté personnel et l'union avec la personne divine, n'est-ce pas? Et que dans ce cas-là, le monde n'est plus une illusion et ni une chose passagère qui disparaîtra après un temps, mais qui est l'expression constante de la personne, l'expression constante et dynamique de la personne divine éternelle. Et ça, c'est l'autre côté. Et quand on a les deux ensemble, alors on est parfait. Bien compris. Bon, autre chose.
Quelle est cette belle fleur de l'énergie cosmique?
Hein?
Cette belle fleur de l'énergie cosmique, ici, la palais. Cette belle fleur de l'énergie cosmique porte en elle une prévision du but et un aperçu du motif même du labeur universel.
Oui, c'est ça. En 28. C'est bien la fin. Oui. C'est l'âme, n'est-ce pas? C'est l'âme qu'il appelle cette belle fleur de l'énergie cosmique. L'âme n'est pas une étrangère de courte durée dans une éternité impersonnelle, mais qu'elle contient la raison d'être même de l'existence. La présence de la personne divine, n'est-ce pas? Cette belle fleur de l'énergie cosmique porte en elle cette belle fleur, l'énergie cosmique, c'est l'âme, porte en elle une prévision du but et un aperçu du motif même du labeur universel. C'est là ce qu'il a mis ici, n'est-ce pas? La réalisation de l'éternel conscient et vivant. C'est ça. C'est ça, là. N'est-ce pas, l'aperçu du but. Et le motif même du labeur. C'est tout. Elle a disparu.
Aussi pour la lumière, à mesure que la vision en cours se développe, alors on réalise qu'il perçoit le monde au-delà, dans lequel la conscience et la personnalité tiennent une place énorme.
Qu'est-ce qu'il a dit?
À mesure que la vision occulte se développe en lui, il perçoit des mondes au-delà, dans lesquels la conscience et la personnalité tiennent une place énorme, et assume une valeur de première importance.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons parlé de ça je ne sais combien de fois. Qu'est-ce que vous voulez à ce sujet? Vous voulez la description de ces mondes ou le moyen d'y aller? Lequel des deux?
Le moyen.
Le moyen d'y aller? Alors. Vous savez vous extérioriser? Savez-vous seulement ce que c'est que de s'extérioriser? Pas philosophiquement ou psychologiquement, je veux dire occultement. Êtes-vous conscient dans votre extériorisation? La faites-vous volontairement? Savez-vous quitter votre corps et vivre dans un corps plus subtil et puis encore quitter ce corps-là et vivre dans un autre corps plus subtil et ainsi de suite? Savez-vous faire tout ça? L'avez-vous fait? Non. Alors nous en reparlerons un autre jour. Oui. Vous savez où vous êtes dans vos rêves? Ah, un petit peu, ça devient intéressant. Et où allez-vous dans vos rêves?
Souvent dans les régions qui sont...
Quelles régions?
Les encombrés de...
Hein?
Dans les régions vitales.
Oh, vous allez dans le monde vital. Et il ne vous arrive rien de désagréable? Et comment est-ce que vous vous tirez d'affaire? Hein?
Sans fille dans le corps.
C'est là que se borne votre connaissance.
Donc, quelquefois, il y a un appel, et là, on voit qu'on n'a pas besoin de sans-fille.
Ça ne dure pas. Mais vous centrez, vous sortez à volonté. Vous pouvez retourner à un endroit que vous avez déjà fréquenté auparavant. Vous ne retrouvez pas le même endroit plusieurs fois. Mais il y a des enfants qui savent faire ça. Ils continuent leur rêve tous les soirs quand ils vont se coucher, ils retournent au même endroit, ils continuent leur rêve.
Quand j'étais un enfant, j'ai fait ça.
Vous n'êtes plus un enfant. C'est dommage. Eh bien, redevenez un enfant et vous saurez le faire encore. Il n'y a rien de plus intéressant. C'est une occupation pour les nuits qui est tout à fait agréable. Vous commencez une histoire, quand il est temps de se réveiller, vous mettez un point à la dernière phrase et vous rentrez dans votre corps. Et puis la nuit suivante, vous repartez, vous rouvrez la page et vous recommencez votre histoire pendant tout le temps que vous êtes sorti. Et puis vous arrangez bien les choses, il faut que ça soit bien arrangé, que ça soit bien joli. Et puis, quand c'est le moment de revenir, vous mettez encore un point final et vous dites aux choses, restez bien tranquille jusqu'à ce que je revienne. Et vous rentrez dans votre corps. Et vous continuez ça tous les soirs. Et vous écrivez un livre de contes de fées merveilleux. À condition que vous vous souveniez quand vous vous réveillez.
Vous savez pas une condition tranquille.
Ça dépend de la candeur de l'enfant et de la confiance en ce qui lui arrive et de l'absence d'un sens critique mental et d'une simplicité de cœur et d'une énergie jeune et active. Ça dépend de tout ça. D'une sorte de générosité vitale intérieure. Il ne faut pas être trop égoïste, il ne faut pas être trop avare, il ne faut pas être trop pratique, trop utilitaire. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'il ne faut pas être, comme sont les enfants. Et puis, il faut avoir un pouvoir d'imagination vivante. Parce que j'ai l'air de vous raconter des bêtises, mais c'est tout à fait vrai. Il y a un monde où vous êtes le suprême formateur. C'est votre monde vital à vous. Vous êtes le suprême formateur et vous pouvez faire une merveille avec votre monde si vous savez vous en servir. Si vous avez une conscience d'artiste, de poète, si vous aimez l'harmonie, la beauté, vous bâtirez là une chose merveilleuse qui aura tendance à pousser vers la manifestation matérielle. Quand j'étais petite, c'est ce que j'appelais se raconter des histoires. Ce n'est pas du tout se raconter avec des mots dans sa tête, c'est s'en aller dans cet endroit qui est vierge et y bâtir une histoire merveilleuse. Et quand vous savez vous raconter une histoire comme ça, qu'elle est vraiment belle, vraiment harmonieuse, vraiment forte et vraiment coordonnée, cette histoire se réalisera dans votre existence, peut-être pas exactement sous la forme où vous l'avez créée, mais comme une expression plus physique, plus ou moins déformée de ce que vous aurez fait. Ça prendra peut-être des années, mais ça aura tendance à organiser votre existence. Mais il y a très peu de gens qui savent raconter une belle histoire. Et puis ils y mélangent toujours des horreurs qu'ils regrettent après. Si on pouvait faire une histoire magnifique sans aucune horreur dedans, rien que de la beauté, ça aurait une influence considérable sur l'existence de chacun. Et ça, il ne le sait pas. Si on savait utiliser cette puissance créatrice dans le monde des formes vitales, si on savait utiliser ça quand on est un enfant, un petit enfant, c'est à ce moment-là qu'on construit son destin matériel. Et généralement, les gens qui vous entourent, quelquefois même vos petits camarades, mais surtout les parents et les professeurs, ils barbotent là-dedans et ils vous habillent tout, au point que il y a très peu de fois où que la chose peut réussir totalement. Mais autrement, si c'était fait comme ça, avec la candeur spontanée d'un enfant, vous pourriez vous organiser une existence merveilleuse. C'est l'âge où on peut se... Je vous parle du monde physique. Les rêves de l'enfance sont les réalités de l'âge mûr.